Voilà, donc c'est pas grave, on n'a pas beaucoup de temps, mais on fera avec ce qu'on a. Ceci étant, merci encore à tous ceux qui ont envoyé des études bibliques. Vous avez vraiment bien bien travaillé. Alors, c'est pas un jeu, mais je crois que quelque part, il y a une satisfaction aussi bien pour vous que pour moi à voir qu'on peut étudier la Bible par soi-même, creuser par soi-même et trouver des tas de choses. C'était le but de l'opération, hein. C'est vrai que c'est pas un jeu. C'était simplement, je suis ravie de voir que beaucoup d'entre vous ont pris goût à étudier la Bible. Et je le vois dans vos études bibliques quand vous envoyez vos papiers. On sent qu'il y a un bonheur à faire ça. On reçoit des choses. Alors, il y a des choses formidables qui m'ont fait très plaisir. Mère et fils, couple, groupe de maison, enfin chacun agit soit en groupe, soit tout seul. Et vraiment, voilà, félicitations parce que c'est super. Et ce que je reçois, c'est vraiment super. Donc je vous encourage à continuer. Parce que quelquefois, le faire parce qu'on vous l'a demandé, ça vous aide à le faire. Sinon, on se dit, oui, je ferai ça la semaine prochaine. Et puis voilà. Donc là, vous avez 15 jours pour le chapitre 25, qui est un chapitre très bizarre. Donc voilà, c'est pas un texte tout à fait traditionnel dans la Bible. C'est vrai qu'il est bizarre, hein, ceux qui l'ont déjà fait. C'est une histoire assez étrange. Donc voilà, je vous mets l'eau à la bouche, ceux qui ne l'ont pas encore lu, chapitre 25, donc 1 Samuel 25. Si vous voulez le préparer à la maison, ça sera pour dans 15 jours, puisque dimanche prochain, on ne sera pas là. Donc pendant 15 jours, j'attends vos papiers. Il y en a qui sont déjà arrivés et qui sont très très bien faits. Donc voilà, je vous encourage. C'est vrai que ça me fait très plaisir parce qu'en fait, mon souhait, c'est que chacun de nous dans l'Église, on lise la Bible, on la travaille pour soi et qu'on y prenne surtout plaisir. Parce que c'est vrai que chacun de vous, on peut vous dire, il faut lire la Bible et vous allez la lire par devoir et vous n'allez pas retenir grand-chose et ça va vous peser. Mon but au travers de ces études bibliques, c'est que vous y preniez plaisir. Et je vois que plusieurs l'ont déjà fait, plusieurs, oui, beaucoup plus que j'imaginais d'ailleurs. Donc continuez, j'aimerais bien que ce soit la totalité. Et les jeunes particulièrement, sortez un petit peu de vos iPhones, etc., pour faire cette petite étude biblique. Vous aviez très bien travaillé en groupe la dernière fois, donc peut-être par deux ou trois, si vous pouviez le refaire, le chapitre 25, pendant 15 jours, ce serait sympa. Vous aviez été dans les meilleures études bibliques. Je crois les deux meilleurs, je dois dire, au niveau quantité de travail. Là, je juge que la quantité de travail, je ne juge pas le fond. Donc, j'aimerais bien que vous recommenciez. Vous aviez très, très bien travaillé. Voilà. Alors, on avait laissé David à En-Gedi devant. Donc, je vous rappelle hein, rapidement, on ne va pas pouvoir aller très loin, mais ce n'est pas grave, que David s'était réfugié avec ses hommes dans une caverne. En-Gedi, c'est un lieu où il y en a beaucoup. Et dans cette caverne, voilà que Saül, qui le poursuivait pour le tuer, vient pour faire ses besoins. Curieux, hein? C'est dit très élégamment dans la Bible, mais c'est ça. Et évidemment, il cherche un endroit tranquille, à l'écart. Je vous avais expliqué la dernière fois, et plusieurs l'avaient remarqué. Hein, il met sa robe autour de lui. Et voilà, il fait ce qu'il a à faire. Et les hommes de David, évidemment, ont le réflexe humain et puis culturel de l'époque. Quand ton ennemi est là, hein, tu le tues, c'est bon. Donc, la première réaction des hommes de David a été de dire, voilà, les circonstances sont favorables. Il faut tuer Saül, vas-y, c'est Dieu qui. Voici le jour où l'Éternel te dit, c'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Verset 5. Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête de David, mais c'était un petit peu ennuyeux quand même, je pense qu'il a dû réfléchir. Et il y a deux points qu'on voudrait voir là. On peut effectivement, quelqu'un a relevé ça, j'ai bien aimé, on peut y voir une action de Dieu. Le fait que Saül se retrouve entre les mains de David comme ça, fragilisé, vulnérable, parce qu'il va montrer à David, je cite la personne qui a dit ça, il montre à David qu'il peut lui livrer Saül à n'importe quel moment. Et oui, on peut effectivement y voir un signe de Dieu, mais pas celui que les hommes de David auraient voulu voir. pour les hommes de David, c'était la loi de la guerre. Si ton ennemi tombe entre tes mains, c'est une aubaine, tu le tues. C'était la culture militaire de l'époque. Par contre, les hommes de David, pour eux, ils restent là-dessus. Les circonstances sont favorables. Elles ne peuvent donc venir que de Dieu. Et on avait dit déjà la dernière fois, on ne s'appuie pas que sur les circonstances. Hein, parfois, il y a des circonstances qui peuvent nous mener à la ruine. Donc attention. On comprend que les hommes en avaient marre d'être en guerre et d'être pourchassés par Saül et ses hommes. Donc on comprend aussi que c'est une réaction naturelle de leur part de dire on se débarrasse du problème. Mais ceci étant, s'ils avaient un petit peu réfléchi, ils se débarrassaient du problème, mais ils créaient une guerre civile. Et un bain de sang, certainement, dans la région. Donc ce n'est pas l'idéal. Un deuxième point qu'on avait peut-être commencé à soulever, l'idée de dire, voilà, c'est Dieu qui a fait ça. Voici le jour où l'Éternel te dit. Ouh ! Attention, chaque fois que quelqu'un dit « Dieu m'a dit », moi je trouve que ça se rapproche beaucoup de prendre le nom de Dieu en vain. C'est quand même un commandement, hein, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Et malheureusement, souvent, j'ai entendu cette petite phrase « Dieu m'a dit » qui traduit en fait « voilà ce que je veux ». Donc ça frise le mensonge, donc il faut faire attention de ne pas utiliser le nom de Dieu n'importe comment. Et je me souviens de le frère qui a démarré ce groupement d'église avec lequel on a démarré, disait toujours « j'ai l'impression que Dieu me dit ». Et je crois que c'est de la sagesse. Hein, on n'a pas la science infuse. Il y avait aussi donc un petit problème de coutume. Je ne sais pas comment il a eu le courage de résister, David, mais on va le voir un petit peu après. David a réussi à faire la différence entre ce que Dieu veut et sa culture. Chaque culture est différente, il y a des bonnes choses et des mauvaises dans chaque culture. Mais il faut savoir de temps en temps résister à notre culture. Alors, j'ai un exemple qui n'est pas bien méchant, mais si vous prenez l'avion pour aller aux États-Unis, par exemple, en Angleterre, dans un pays anglophone, plus ça se remarque plus, vous repérez tout de suite les Français. Tout de suite. C'est ceux qui rouspètent. C'est trop long, il fait trop chaud, il fait trop froid, les hôtesses ne sont pas encore là, l'avion va avoir du retard, il pleut, enfin, on a toute la liste. Vous écoutez les anglophones, bien sûr, il y en a aussi chez eux, mais ce n'est pas la majorité. C'est sympa, on a un petit peu de temps d'attente, on va en profiter pour ceci, pour cela. Oh, t'as vu comme c'est joli là-bas, etc. Écoutez les conversations, et voilà, on a une culture de rouspétance, ils ont une culture de reconnaissance. Globalement. Bien sûr, il y a des exceptions partout. Il y a des Français reconnaissants et il y a aussi des anglophones qui ne le sont pas. Mais faites cette expérience dans les avions et vous allez rigoler, vous allez penser à moi. Si vous entendez une voix un peu rouspétante là, vous pouvez savoir en général d'où elle vient. La volonté de Dieu, pourtant, dans ce domaine, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, soyez reconnaissants, ayez des actions de grâce. Voilà. Alors, je crois que c'est un petit domaine qui n'est pas bien méchant, mais il faut savoir résister à sa culture, dans ce qu'elle a de mauvais. Je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à mettre en pratique, dans le quotidien, comme on l'a entendu tout à l'heure pour l'école, des choses qui nous font du bien à nous, d'ailleurs. Parce que, bien sûr, si je suis là, je ne vais pas rouspéter, ce n'est pas très productif. Mais dire, je vais être reconnaissant et je vais voir le bon côté des choses... En plus, ça vous fait du bien, paraît-il, que ça fait baisser la tension, ça fait venir des endorphines, etc. Bon, je passe sous le côté biologique qui existe et qui est prouvé que quand on est de bonne humeur et qu'on voit les choses positivement, on se porte mieux. Alors, il y a tout un phénomène biologique. On laissera ça, si un jour on a des biologistes dans l'église, on leur laissera expliquer ça. Mais voilà, c'est la vérité scientifique. Donc, voilà, savoir résister à sa culture dans ce domaine-là, ça sera une bonne chose pour tout le monde. Bon, David, lui, alors là, il m'étonne. Il n'y a rien entre deux. Hein. Fais-lui ce que bon te semblera. Il n'y a rien, il y a un point. Et puis, David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Non, mais enfin, il fallait le faire quand même. Il ne devait pas faire de bruit. Hein. Moi, je pense qu'en tant que berger, il avait appris à pas trop faire de bruit hein, pour attraper les bêtes sauvages qui attaquaient le troupeau, etc. Mais quand même. Venir couper le manteau, déjà je pense qu'il avait des couteaux bien affûtés, et venir couper le manteau pendant que l'autre faisait ses besoins, c'était un peu problématique, mais il y est arrivé. C'est quand même inquiétant, oui. Il n'a pas fait, et c'est fait ce qui te semble bon. Ce qui lui a semblé bon, c'était de prendre ce bout de tissu. Moi, je me mets un peu à la place de ces hommes. Je vais dire, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Non, mais pas possible, quoi. Couper un bout de son manteau. Tu sais, il y a beaucoup d'humour dans la Bible. Et ce passage, pour moi, est très, très humoristique. Le gars qui poursuivait David avec 3000 hommes, qui se trouve tout seul, et il y en a 600, alors que avant c'était un rapport de 1 à 5, voilà que maintenant il est tout seul, dans une position pas très, très, très agréable, vachement vulnérable, et tout ce que David trouve à faire, c'est couper un bout de son manteau. On se dit, mais où on va là ? Il y a un petit côté humoristique, il faut le voir. Dieu nous a créés avec le rire. Vous savez, comme disait un grand philosophe français, Bergson, oui, disait que le rire est le propre de l'homme. Donc si Dieu nous a créés avec le rire, c'est parce qu'il faut s'en servir. Et là aussi, scientifiquement, c'est très bon. Les endorphines et tout le bazar, voilà. Le fait de rire, ça fait du bien. Et je pense que c'est un petit peu humoristique ici. Alors, moi, j'imagine un petit peu la surprise des hommes qui voient David revenir avec son bout de tissu. Bon, il y avait un symbole là aussi. Quelqu'un l'a remarqué d'ailleurs dans son texte. Le manteau était le symbole de la royauté. Et il coupait un morceau, mais il le coupait pas en entier. Samuel l'avait fait. Il l'avait déchiré, vous vous souvenez. Donc il y a tout un tas de symboles là derrière. Et David s'explique. Il s'en bat de son cœur parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Ben oui, ça le mettait vraiment mal à l'aise de sentir qu'il aurait pu le tuer. Je pense que sa tension est bien montée, lui-là. Et il dit à ses hommes, il s'explique, et ça j'ai trouvé bien, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est le Messie de l'Éternel. Messie, ça veut dire oint, celui qui a eu l'onction royale. Alors, je trouve que les hommes ont été gentils, ils l'ont écouté. Enfin, ils risquaient leur vie quand même avec David, hein, et ils ont accepté cette explication, parce qu'ils ont trouvé qu'elle était certainement bonne. Ils avaient suffisamment la crainte de Dieu, le respect de Dieu, pour dire, c'est une bonne explication, on l'accepte. Ils étaient courageux quand même. Hein. Moi, j'ai trouvé, ils auraient vraiment pu se révolter, mais ils avaient du respect pour l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de Dieu. Et c'est une leçon aussi pour nous. Parfois, on va être pris par les uns ou les autres, mais dans la mesure où le fait de nous reprendre vient de la parole de Dieu, on doit l'accepter. Quelqu'un l'a remarqué d'ailleurs dans son texte. C'est important d'accepter si ça vient vraiment de la parole de Dieu, si c'est quelque chose qui est foncièrement biblique, c'est mieux de l'accepter. Je trouve que les hommes, ces 600 hommes là, chapeau, ils se sont pas révoltés, ils ont accepté ce que David leur a dit. Alors j'avais dit la dernière fois que ce passage est souvent utilisé pour encourager le silence face aux abus des responsables, spirituels particulièrement, prêtres, pasteurs, missionnaires, directeurs d'œuvre, etc. Et la Bible nous dit, elle, on n'est plus dans l'Ancienne Alliance, elle nous dit que tout chrétien a l'Esprit de Dieu en lui, il a donc ce qu'on appelle cette onction, le salut, le baptême de l'Esprit. La Bible parle d'une nation sainte, un peuple élu, un sacerdoce royal. On n'est plus dans l'ancienne alliance. Donc ça, c'est un point important. On n'a plus cette onction qui vous protège de tout et personne n'a rien à vous dire. On n'est plus dans ce contexte. Ceci étant, même dans l'Ancien Testament, même dans cette première partie de la Bible, les prophètes n'hésitaient pas à dire au roi leur cas de vérité. On le verra un petit peu plus tard. C'était le rôle du prophète, c'était assez codifié. Là, c'est pas tout à fait la même chose maintenant. Loin, le Messie, c'est marrant hein, qu'ils utilisaient, c'est le même mot en fait. Loin et Messie, c'est le même. Pour nous, c'est Jésus. On est dans la Nouvelle Alliance. Et effectivement, on est supposé respecter cette onction que Jésus porte en tant que Messie. Et c'est lui maintenant qui est concerné par ce genre de texte, mais c'est pas des humains. Et je disais dimanche dernier, la tragédie de l'Église catholique, Et ça peut être n'importe quelle autre église, hein, mais c'est l'exemple qu'on a en ce moment, le fait que les gens n'ont pas osé parler, vous avez vu ce que ça a donné. On n'a pas osé parce que c'était un curé, parce que c'était un évêque, parce que c'était voilà, un archevêque ou je ne sais quoi, hein, et ce n'est pas bon. Je veux dire, la Bible ne nous encourage pas à accepter le mal sous prétexte que ça vient d'une autorité. Pas du tout. Ça, pas du tout, du tout. Avec les rois, il envoyait des prophètes pour les reprendre. Nous, aujourd'hui, on est quand même responsables et on n'a pas à accepter le mal. Maintenant, il y a une manière de s'y prendre. Alors, c'est sûr que quand on s'oppose aux autorités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, par esprit de vengeance, pour chercher à nuire au lieu de construire, pour mettre des bâtons dans les roues, pour le plaisir de freiner les choses, pour des raisons personnelles, des goûts, des préférences humaines, des volontés de contrôle, évidemment, ça, c'est néfaste. Je veux dire, on va prendre même un directeur d'association ou un directeur d'œuvre, bah, puisqu'on vient de parler de l'école chrétienne, hein, imaginez, aller mettre des bâtons dans les roues, freiner les choses parce qu'on n'est pas d'accord avec ci et que ça, parce que la couleur de la moquette ne plaît pas ou je ne sais quoi, c'est insensé. Et on n'est pas du tout appelé à détruire comme ça. Au contraire, on est appelé à construire, et c'est ce que tu as bien remarqué tout à l'heure. Donc ça, c'est vrai. Mais... oui. Même dans le cas de David et Saül, on va voir que non seulement il est pas allé, il l'a pas tué, mais il va suivre tout un processus pour lui parler. Le fait d'avoir de la considération pour l'autre, c'était important pour David, mais c'est aussi important pour nous. On va peut-être terminer là-dessus. Je pensais à ce verset que quelqu'un m'a noté, donc vous voyez, je reprends les choses que vous avez écrites. C'est dans 1 Thessaloniciens 5:13. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération, et la personne a noté, pas de l'idolâtrie. Pour ceux qui se donnent de la peine parmi vous, qui vous dirigent, et j'aime bien le mot diriger, parce que ce n'est pas commander. Diriger, c'est marcher devant. C'est le leader en anglais, hein, c'est marcher devant. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les gens qui commandent. Donc, pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent, 1 Thessaloniciens 5:13. De même, dans la Nouvelle Alliance, il dit « On n'acceptait pas d'accusation contre un ancien, sauf sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Je veux dire, on peut dire les choses. Il y a une façon de le faire, mais on peut dire les choses. La deuxième chose que j'avais notée sur ce passage, c'est que c'est bon de réfléchir. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit éteindre notre cerveau ou le laisser au vestiaire en rentrant à l'église. C'est bon de réfléchir. Dieu nous a donné des capacités de réflexion et il veut qu'on les utilise. Ça fait partie de la sagesse dont la Bible parle. Et je vous dirais que quand quelqu'un vous demande de ne pas réfléchir, vous êtes en danger. La Bible dit, et j'ai relevé plusieurs de ces passages, d'ailleurs je ne suis pas la seule, il y en a d'autres qui les ont relevés. La Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examine le chemin où tu mets les pieds. Éprouvez les esprits, c'est-à-dire testez un peu, voir. Hein. Et dans certains cas, il se passe certaines choses, etc., que les autres jugent. L'être humain est faillible. Il a beau être responsable d'une communauté, ou d'un village, d'une ville, enfin, peu importe, l'être humain est faillible. On l'a vu avec tout ton témoignage. Il peut faire vraiment des bêtises, il peut faire des gaffes. La parole de Dieu, il faut la connaître pour pouvoir faire la distinction. Et là, quelqu'un d'autre l'a relevé. Comment faire la distinction entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, entre intervenir et se taire. Ça demande de la réflexion. Et surtout, ne vous laissez jamais convaincre qu'il ne faut pas réfléchir. Non, il faut réfléchir, il faut utiliser son intelligence. Il l'utilise avec sagesse, mais il faut l'utiliser. Et on peut avoir affaire dans certains cas, ça peut être dans le domaine du business, ça peut être dans le domaine commercial, ça peut être dans le domaine religieux. Si on vous interdit la réflexion, on vous demande d'agir de façon impulsive ou simplement de se soumettre aveuglément, c'est non. En aucun cas, Jésus nous demande d'agir comme ça. Il ne l'a pas fait, les apôtres ne l'ont pas fait. Il faut utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée. Alors, l'attitude de David, je ne vais pas avoir le temps. Donc, on la reprendra la prochaine fois. Je vais peut-être simplement vous donner des points de réflexion juste avant de terminer. David va interpeller Saül, on le lira ensemble. Il va respecter le protocole sujet roi. Donc là, il respecte la culture de son époque. Il y a des moments où c'est bon. Il va avoir énormément d'égards. Il va poser des questions. Ça, il n'y en a pas qui l'ont relevé, c'est dommage. Parce que chez les Juifs, poser des questions, c'est très important. Il n'a pas agressé Saül en lui disant « Tu es ceci, tu es cela, tu fais ceci, tu fais cela, il y en a marre de toi. » Pourquoi écoutes-tu ? Bon, on en reparlera après. Il lui présente des faits, pas des idées, pas des impressions, pas des sentiments. Des faits. Il va avoir énormément d'affection et de respect. Il va faire appel aux sentiments de Saül autrefois, où ils étaient proches, très très proches. Et ce n'est pas un hasard de langage d'avoir dit mon père et l'autre lui a répondu mon fils. Et puis il continue dans les faits, tu pourchasses ma vie. Et après il le place devant Dieu. Voilà, Dieu va être juge. Il le fait réfléchir. Et il lui rappelle en passant, toujours une petite teinte d'humour, le ridicule de la situation. Tu poursuis quoi ? Une puce ? Et puis, il va terminer en insistant sur la justice de Dieu en qui il a confiance. Et c'est ça qui le rassure, lui. Donc, on va retravailler ces points-là ensemble. Certains ont été très, très bien travaillés dans les études bibliques. Il y en a beaucoup qui ont remarqué la miséricorde de David. Bravo, parce que je trouve qu'il a vraiment fait preuve de miséricorde alors que sa vie était en danger. Mais ça, on reprendra point par point. Je suis désolée, j'ai dépassé.